Radio Indondi Culture, le journal.
Edith Nahayo.
Merci d'écouter la Radio Indondi Culture. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Des veilleurs de certaines écoles de la province Ruigi à l'est du Burundi s'indignent du maigre salaire et mensuel qu'ils perçoivent, ainsi que d'autres mauvaises conditions de travail. La Chambre basse du Parlement a analysé et adopté ce mardi un projet de loi portant modification de la loi numéro 1/02 du 3 mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale au Burundi. Et la Belgique a accordé ce mardi au gouvernement burundais un don d'une somme de 75 millions d'euros en vue de soutenir le Burundi dans différents secteurs. Comme tous les mardis, nous avons la chronique santé. Aujourd'hui, nous parlons des maladies opportunistes qui apparaissent lorsqu'un enfant est atteint de diabète et qu'il passe plus de 5 ans sans être traité. Voilà pour le sommet.
Radio Indondi Culture.
Des veilleurs de certaines écoles de la province Ruigi à l'est du Burundi s'indignent du maigre salaire mensuel qu'ils perçoivent. À cela s'ajoute son irrégularité, confirme ses sentinelles. Il s'agit également d'un boulot qui est effectué par des personnes d'une catégorie d'un âge avancé et ils réclament de bonnes conditions de travail, y compris la révision de leur mode de paiement, de leur salaire. On fait le point avec Pantalon Makarutiman.
Certains de ces veilleurs de différents établissements scolaires révèlent que leur boulot est méprisé. S'agissant des motifs de telle appréciation, ils avancent le retard de leur salaire dans l'environnement, s'effectue sur des comptes de l'école, ce qui exige que les directeurs prennent du temps pour les récupérer et les leur donner main en main. Cette situation facilite des directeurs mal intentionnés d'avancer des accusations de manquement afin de grignoter sur leur salaire. En plus du salaire insuffisant de moins de 50 000 francs, ce boulot reste pour les inoccupés et il n'y a pas de désir à l'intégrer, d'où le recours aux personnes d'une cinquantaine d'années qui ignorent parfois la manipulation du simple téléphone portable, d'où le système d'alerte en cas d'invasion au moment où Dieu veillait des écoles de l'école fondamentale de Butezi et le lycée pédagogique de Kinyinya sont dans des cachots, ces mêmes veilleurs demandent une justice impartiale à leur égard. Quant au directeur accusé de catalyser les retards de salaire, certains directeurs communaux de l'enseignement leur demandent de payer à temps ces veilleurs autant que possible. Depuis Luigi, Pantalon Nakarutimana, Radio Indondi Culture.
Merci Pantalon Nakarutimana. Et sur les réclamations de l'augmentation des salaires, l'institution de l'Ombudsman burundais appelle plutôt les fonctionnaires de l'État, dont les médecins, à être patients par rapport au salaire qui, selon eux, est insuffisant. Le Moussman et Laurentine Kanyan a fait savoir qu'avant de réclamer le bon salaire, quel fonctionnaire devrait analyser les moyens dont dispose le pays. Il s'est exprimé ce lundi à la Chambre basse du Parlement sur la question des médecins qui auraient été arrêtés à cause des réclamations de l'augmentation des salaires du personnel soignant au Burundi. Laurentine Kanyana a toutefois demandé que les autorités concernées puissent s'asseoir ensemble pour trouver une solution à ce problème. Suivez-la dans la traduction de Claire Yakahundi.
Il a demandé la question concernant les médecins récemment incarcérés dans les cachots du service national de renseignement alors qu'ils réclamaient l'augmentation du salaire. En vérité, personne n'a saisi l'institution de l'Ombudsman. Entre-temps, il y a ceux qui nous ont contactés et nous avons trouvé que la compétence revient à la Commission nationale de dialogue social. C'est une affaire en rapport avec le travail. Ce que je peux dire est que nous voyons les moyens du pays et alors le développement intégral du pays s'appuie sur les différents secteurs du pays. Il y a une certaine complémentarité. Je me suis documenté auprès des médecins travaillant à l'étranger. D'où vient leur bon salaire? Ils m'ont répondu que dans ces pays, la sécurité sociale est bien renforcée. Ce sont les citoyens qui contribuent pour leur assurance et le gouvernement peut contribuer par des subventions. Alors que les citoyens ne peuvent pas s'attaquer aux maladies, il y a la mutualité qui facilite le citoyen à avoir accès à des soins sanitaires. L'argent entre dans les caisses des hôpitaux, ce qui donne une bonne rémunération aux médecins. Je peux dire donc que le souhait des médecins de voir leur salaire revu à la hausse est compréhensible si les moyens le permettent. Sinon, il faut que les médecins n'oublient pas le serment d'Hippocrate. On doit s'asseoir ensemble pour analyser la question sans mésentente et puis étudier une réforme permettant que la couverture de l'assurance maladie soit élevée au niveau national pour que toute personne malade se dirige vers les structures sanitaires afin que les frais payés interviennent dans le salaire des médecins.
Restons toujours à l'est du pays pour parler de l'éducation à présent. Des parents d'élèves en province de Changuzo déplorent des abandons scolaires de leurs enfants pour aller en Tanzanie. Nos sources parlent de la pauvreté des ménages, mais également le matérialisme des enfants encore sur le banc de l'école comme cause de ces abandons. Les responsables en charge de l'éducation à Changuzo qui affirment ces cas d'abandon d'élèves pour la Tanzanie parlent pourtant de sensibilisation pour juguler le phénomène. Le point avec Jotan Iratuzi.
Des communes Mishiha, Gisagara et Chendajuru, frontalières de la République unie de Tanzanie, sont les plus touchées par le phénomène d'abandon scolaire. Poussées par la faim dans les familles, ces enfants migrent vers la Tanzanie à la quête du travail selon des parents.
Il y a des enfants qui commencent l'école, mais qui par après abandonnent faute de moyens et hôtes pour aller en Tanzanie.
Des enfants partent aussi sous l'influence du groupe, témoigne une femme dont son enfant est parti vers la Tanzanie.
Et de leur retour de la Tanzanie, avec quelques matériels comme des téléphones, de beaux pantalons ou de belles chaussures, ils motivent les autres à abandonner l'école pour la Tanzanie et ainsi ils quittent l'école.
À part l'abandon de l'école, les parents de ces enfants regrettent qu'ils reviennent main vide à leur retour de la Tanzanie, spoliés selon des parents.
Ils ne gagnent rien. Ils rentrent comme ils sont partis ou avec un téléphone. Des fois, ils se disent qu'ils ont été dépouillés de tout leur argent. Par exemple, mon enfant vient de passer 3 mois et je n'ai aucune information s'il est encore vivant.
Les enfants des parents en provenance des autres provinces et des anciens réfugiés sont les plus touchés par ce phénomène de migration selon la direction provinciale de l'éducation de Changuzo. Cette dernière déplore que le nombre des cas d'abandon scolaire continue d'augmenter à cause de l'implication des commissionnaires malgré des séances de sensibilisation organisées à l'intention des parents. Un trafiquant d'enfants en commune Mishiha aurait été appréhendé selon des sources sur place.
Merci Jotan. Coopération à présent. La Belgique a accordé ce mardi au gouvernement burundais un don d'une somme de 75 millions d'euros. Il s'agit d'un don qui va soutenir le Burundi dans différents secteurs comme l'agriculture, l'éducation ainsi que la bonne gouvernance sur une durée de 5 ans afin de relever certains défis dans ces domaines, comme l'explique ici Michael Wima, l'ambassadeur de la Belgique au Burundi, que je propose d'écouter.
La Belgique est aux côtés du Burundi. Notre partenariat repose sur des valeurs communes, la solidarité, la réciprocité et la volonté de développement inclusif et durable. À travers notre programme bilatéral, nous réaffirmons notre engagement à accompagner le Burundi dans son développement socio-économique en soutenant les secteurs stratégiques essentiels tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et la bonne gouvernance. Ce cadre de concertation est un outil précieux pour aligner nos actions sur les priorités nationales du Burundi et en particulier sur la vision 2040-2060, renforcer la coordination et assurer un suivi rigoureux des projets que nous menons ensemble. Les défis sont nombreux et j'invite tous les participants aujourd'hui à les évoquer de manière ouverte. Car si on veut faire avancer la carriole, on doit retirer les troncs d'arbres qui entravent le chemin. Reconnaissons aussi que les opportunités sont nombreuses pour un partenariat encore plus solide et plus inclusif. En unissant nos forces et en adaptant une approche inclusive et participative, nous pouvons générer un changement durable et positif pour les populations burundaises.
Michael Wima, il est l'ambassadeur de la Belgique au Burundi. Après une courte pause, la suite de notre édition.
Radio Indondi Culture.
Retournons à la Chambre basse du Parlement. Un projet de loi portant modification de la loi numéro 1/02 du 3 mars portant réforme de la fiscalité communale au Burundi a été analysé et adopté ce mardi par la Chambre basse du Parlement. Le gouvernement burundais évalué à au moins 50% la fuite fiscale avec l'ancien mode de collecte de recettes et envisage actuellement la collecte de recettes communales jusqu'à 60 millions de nos francs par commune et par an avec la prochaine loi de finances, alors que certaines communes peinaient jusqu'ici à atteindre 150 millions de recettes collectées chaque année, mais les députés ayant réagi en plénière ont émis des doutes, On fait le point avec Nolis Ndouima.
Le ministre de l'Intérieur, qui était l'invité du jour, a dans son exposé de motifs dressé un bilan négatif dans la collecte des recettes en général au Burundi avec la réforme de la fiscalité communale du 3 mars 2016. Martin Iteretsi a noté des fuites fiscales plaçant les communes dans le choc pour ce qui est de la viabilité financière et a déclaré que la nouvelle réforme oblige les communes à atteindre au moins 60 millions de nos francs comme recettes annuelles pour chaque commune dès la prochaine loi des finances, au moment où des communes atteignaient à peine 150 millions de nos francs comme recettes annuelles, ce qui a alors suscité des inquiétudes pour les députés ayant réagi en plénière. Ils se sont certains demandé, comme la députée Joki Chantal Nkurunziza, les mécanismes instaurés afin de gagner ce pari. Et à Honorable Léopold Hakizimana abonda dans le même sens d'idée de proposer l'institution des offices communaux de recettes à l'instar de l'Office burundais des recettes afin de réussir la nouvelle réforme.
Je me dis que pour atteindre l'objectif, il faut la création d'un office communal de recettes comme il y a au niveau national un office burundais des recettes. Sinon, une fois que vous gardez le même système de collecte, le pari risque de ne pas être gagné.
Réagissant à propos, le ministre Niteretsi a annoncé, mais sans expliciter, de la rigueur de nouvelles stratégies afin que le recouvrement des impôts et taxes se fasse sans exception, avant de rassurer que de nouvelles formules seront cette fois-ci employées dans la même logique.
Nous espérons une réussite. Nous allons employer des formules. Les impôts et taxes relèvent du domaine de la loi conformément à l'article 264 de la Constitution.
Le gouvernement comptait jusqu'ici la fuite fiscale à au moins 50% des recettes communales avec la réforme de 2016. Les agents communaux, dont les percepteurs d'impôts étant selon le ministre les premiers responsables, et comptaient renforcer la digitalisation dans la collecte des recettes communales, un système déjà fonctionnel dans 12 communes pilotes à travers le puis depuis une année environ, quoiqu'il ne soit pas encore évalué en termes de rentabilité.
Restons toujours à l'Assemblée nationale où des députés burundais demandaient à l'institution de l'Ombudsman de faire le suivi sur la mise en application des recommandations à l'endroit des responsables de l'administration publique. Ces élus du peuple signifient que la lenteur au niveau d'exécution des recommandations entraîne de mauvais rendements. Lors de la présentation ce lundi du rapport de réalisation de l'institution de l'Ombudsman en 2024, Mme Laurentine Kanyena a affirmé que cette question mérite d'être résolue. On fait le point avec Olivier Cuisier.
La lenteur au niveau de l'exécution des recommandations est une préoccupation pour les élus du peuple. Le député Pamphile Malaika précise que certains responsables de l'administration publique sont impliqués dans cette affaire. Il propose néanmoins à l'institution de l'Ombudsman à faire un suivi dans la mise en application des recommandations présentées dans les rapports.
Dans ces recommandations, vous avez parlé de la lenteur au niveau de la mise en application des recommandations formulées. Je propose de faire un suivi comme la Cour des comptes l'a fait pour que votre institution soit efficace.
Le député Martin Nivyabandi revient sur les dossiers qui devraient être traités dans une semaine, mais qu'il traîne au cours d'une période de 6 mois. Nivyabandi s'interroge alors comment le développement peut se faire dans le pays. Il demande à l'Ombudsman d'agir sur la lenteur administrative pour que cette question soit résolue.
Le dossier qui devrait être traité dans une semaine peut prendre 6 mois, voire même 12 mois. Pour ça, il est donc difficile de réaliser les projets de développement. Pourriez-vous faire un commentaire sur la lenteur administrative qui ne contribue pas au meilleur rendement?
L'Ombudsman dit avoir reconnu que le traitement des dossiers traîne dans l'administration publique. Aimé Laurentine Kanyan souligne que cela ne peut plus développer la communauté burundaise. Elle fait savoir que ce problème doit trouver solution dans un meilleur délai.
La lenteur ne fait que reculer le développement du pays. Cette question mérite d'être résolue dans un meilleur délai et nous sommes engagés à contribuer surtout en proposant des solutions.
Lors de la présentation sur lundi du bilan de réalisation de 2024 à l'Assemblée nationale, l'Ombudsman a indiqué qu'une étude devrait être menée pour le bien-être du pays.
Merci Olivier Cuisera. Place maintenant à la chronique santé.
Radio Indoniculture, chronique santé.
Dans la chronique santé que l'aide d'action vous propose chaque mardi aujourd'hui, nous parlons des maladies opportunistes qui apparaissent lorsqu'un enfant est atteint de diabète et qu'il passe plus de 5 ans sans être traité. La diabétologue Elsie Benita Kaneza indique alors que la prévention du diabète de type 1 est quasi impossible, alors que celle du diabète de type 2 est aisée. La chronique santé est signée Claire Yakahundi.
L'une des conséquences du diabète chez les enfants, c'est une diminution de l'insuline dans le sang, autrement dit l'acidocétose, alors que l'autre conséquence est l'hypoglycémie, une baisse du taux de sucre dans le sang. La diabétologue Elsie Benita Kaneza explique l'origine de cette hypoglycémie.
L'acidocétose, c'est-à-dire que là on est en état où on a une carence assez importante de l'insuline dans notre corps. L'hypoglycémie, le fait qu'il y a une baisse du taux de sucre dans le sang, qui est dû parce que l'enfant n'avait pas eu un repas assez suffisant, ou parce que le repas a été sauté, ou parce que la dose d'insuline était assez importante par rapport au repas, ou parce qu'il y a eu une activité physique beaucoup plus importante que d'habitude.
Lorsqu'un enfant est atteint de diabète et passe plus de 5 ans sans traitement, des maladies opportunistes apparaissent, d'après la diabétologue.
Les complications chroniques, comme ceux qui sont vus chez l'adulte, ils peuvent être vus chez les enfants. S'ils ont passé 5 ans, 10 ans, 15 ans sans avoir un taux de sucre qui est normalisé, et ces complications, ça peut être des problèmes ophtalmiques, ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique au niveau rénal. On peut avoir ce qu'on appelle la néphropathie diabétique, le développement des neuropathies périphériques qui peuvent être en rapport avec la sensation, en rapport avec des douleurs. C'est un problème plutôt au niveau des nerfs, surtout au niveau des pieds.
Docteur Elsie Benita Kaneza souligne que la prévention du diabète de type 1 est quasi impossible, alors que prévenir le diabète de type 2 est aisé.
Chez les enfants, pour la prévention, j'avoue que jusqu'à ce jour, il n'y a pas vraiment de technique de prévention du diabète de type 1, vu que c'est une maladie auto-immune. Il est vrai qu'il y a certains médicaments qui sont en train d'être testés, mais on attend toujours des résultats. Mais sinon, la prévention, elle peut être faite pour le diabète de type 2 chez les enfants. C'est d'éviter une prise de poids importante en favorisant plutôt une alimentation qui est équilibrée, moins riche en graisses, moins riche en produits secret, et favoriser une activité physique régulière par une diminution du temps au niveau des écrans.
Dans notre prochaine chronique santé, nous parlerons du traitement du diabète chez les enfants ainsi que des défis y relatifs.
Merci Claire Yakangou avec la chronique santé, et c'est ici que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute.
Edith Nahayo.